VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Rubin Dorcy, les Tatiana Mosso.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du lundi 8 février 2016 à la une ce soir.
En RDC, au moins 15 morts dans les affrontements survenus dimanche entre groupes armés dans l'est du pays. Cette zone est le théâtre de vives tensions ethniques depuis plusieurs semaines.
Au Sénégal, reprise du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, jugé à Dakar par un tribunal spécial africain pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre.
Procès Gbagbo, la Cour pénale internationale s'excuse pour la divulgation de l'identité de plusieurs témoins dont les noms devaient rester secrets.
Au Burkina Faso, libération de l'otage Jocelyne Elliott, enlevée avec son époux Kenas Elliott dans le nord du pays.
Je veux remercier la population de Burkina aussi pour le soutien pendant mon absence.
En Syrie, l'armée de Bachar al-Assad continue d'infliger les revers à la rébellion grâce à l'appui de la Russie, des Iraniens et du Hezbollah libanais.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais avant le journal.
Au Burkina Faso, Jocelyne Elliott, enlevée avec son époux Kenneth Elliott dans le nord du pays le 16 janvier dernier, libérée il y a quelques jours grâce à la coopération Niger-Burkina, elle a été reçue ce lundi par le président Ouakmar Christian Kabore. Elle souhaite vivement la libération de son mari pour ensuite rejoindre la ville de Djibo, où le couple apportait une assistance aux populations. À Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Madame Jocelyne Elliott est arrivée ce lundi matin en provenance de Niamey par un vol de l'avion présidentiel. À l'aéroport où était mobilisée la presse, Madame Elliott n'a pas voulu parler. Rendez-vous a été pris après son audience avec le président du Faso, Ouakmar Christian Kabore. Après donc son audience, Madame Jocelyne Elliott, qui ne semble pas porter des signes extérieurs de la dure épreuve qu'est le fait d'être otage dans le désert, a dit ceci.
Je veux remercier la population de Burkina aussi pour le soutien pendant mon absence. Je veux bien être avec mon mari bientôt pour que nous puissions aller encore à Djibo.
Il nous a été dit qu'à Djibo, ville du nord Burkina, où vit et travaille le couple Elliott depuis plus d'une quarantaine d'années, c'est l'effervescence, la liesse populaire. Mais la lutte du mouvement Je suis Elliott continue pour la libération de son mari, Dr Kenneth Elliott. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le président du tribunal de la Cour pénale internationale qui juge l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo Alaé a présenté lundi ses excuses pour la divulgation par erreur la semaine dernière de l'identité de plusieurs témoins dont les noms devaient rester secrets, John Lyndon.
L'incident s'est produit alors que le procureur Eric McDonald demandait le huis clos pour protéger trois témoins dont il a cité ensuite les noms. Ceux-ci sont clairement audibles sur la chaîne de la CPI et ils se sont rapidement retrouvés sur les réseaux sociaux. Une quatrième identité a ensuite été dévoilée selon des médias. Avant tout, le tribunal doit présenter ses excuses. Je pense qu'il est juste de le faire, a déclaré le juge Kuno Tarfuser. Ses excuses concernent la Cour dans son ensemble parce que ce qui s'est produit est vraiment incroyable, a ajouté le magistrat, visiblement embarrassé. La gaffe a fait la une de la presse en Côte d'Ivoire ce week-end, même si les partisans de M. Gbagbo, comme ceux de son rival, le président Alassane Ouattara, en ont minimisé la portée. La protection des témoins au procès devant la justice internationale est cruciale. Beaucoup redoutent des représailles et la CPI tente de cacher leur identité pour les protéger.
Au Sénégal, reprise du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, les audiences entrent dans leur deuxième phase avec les plaidoiries entrecoupées du réquisitoire du parquet général jusqu'au 12 février. On fait le point avec Idriss Fall.
Au début de la séance, maître Yare Fall, avocat des parties civiles, a déclaré que rien ne pouvait se faire au Tchad sans en référer à Hissène Habré, ajoutant que c'est lui qui libérait et c'est lui qui faisait exécuter. Il résume ainsi la teneur des dépositions à la barre depuis l'ouverture du procès le 20 juillet 2015 jusqu'à son ajournement le 15 décembre. D'après Marcel Mendy, porte-parole des chambres africaines extraordinaires, les plaidoiries des 15 avocats des parties civiles sont prévues lundi et mardi. Le réquisitoire du parquet général est programmé pour mercredi, puis jeudi et vendredi, les plaidoiries des 3 avocats commis d'office à la défense. Les audiences seront ensuite suspendues pour le délibérer avec un prononcé du verdict vers la fin mai. En détention depuis juin 2013, Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Depuis l'ouverture de son procès, Il récuse le tribunal et refuse de s'exprimer.
En Guinée, des centaines de personnes ont marché lundi à Conakry en mémoire du journaliste El Hadj Mohamed Diallo, tué dans des heurts politiques la semaine dernière. 5 associations de professionnels des médias ont appelé à observer mardi une journée sans presse en Guinée. La marche, qui a rassemblé environ 300 journalistes représentants de la société civile et simples citoyens, s'est déroulée sans violence pendant près de 4 heures et a pris fin devant le siège du ministère de la Justice.
15 personnes au moins ont été tuées dimanche lors d'affrontements entre groupes armés dans une zone de l'est de la République démocratique du Congo, théâtre de vives tensions ethniques depuis plusieurs semaines, a-t-on appris aujourd'hui auprès des autorités locales. Selon l'administrateur de la région, les combats ont été provoqués par l'attaque de miliciens Maïmaï Nandé contre le village de Mukeberwa, tenu par des rebelles Hutu rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda, l'FDLR.
En Centrafrique, le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique, une faction de l'ex-rébellion de la Seleka, a capturé le week-end dernier et remis aux forces américaines un chef de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. Le commandant Sam a affirmé lundi à l'AFP l'un de ses chefs.
La justice française enquête sur de nouvelles accusations de viol portées contre des soldats de la force française Sangaris en RCA par une fillette de 7 ans et son frère de 9 ans, a-t-on appris de sources judiciaires. Des investigations sont déjà menées par les gendarmes français sur d'autres allégations portées par des mineurs et susceptibles de concerner 14 soldats français.
Au Nigeria, plusieurs milliers de travailleurs ont manifesté contre la hausse de 45% du prix de l'électricité, une mesure qu'ils qualifient d'anti-pauvre. La manifestation organisée par les deux principales organisations syndicales du pays et la première du genre depuis l'arrivée au pouvoir du président Muhammadu Buhari. À Abuja, la capitale, les manifestants ont entonné des slogans comme « Non aux mesures économiques anti-pauvres » en marchant jusqu'à l'Assemblée nationale après s'être réunis devant les bureaux de la Compagnie nationale d'électricité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au moins 27 migrants, dont 11 enfants, ont trouvé la mort ce lundi en mer Égée, au large des côtes occidentales de la Turquie. Selon les gardes-côtes cités par l'AFP, leur embarcation a fait naufrage alors qu'ils tentaient de rallier les îles grecques. Un précédent bilan fourni par l'agence de presse Dogan faisait état de 24 morts. Ce nouveau drame est survenu au large de la localité d'Edremit, dans l'ouest de la Turquie. Il y avait 40 passagers à bord au moment du naufrage.
En Syrie, les rebelles de la province septentrionale d'Alep se sont retirés de 3 localités menacées par les frappes russes, ce qui a permis aux forces kurdes de s'en emparer. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon l'Observatoire syrien de droits de l'homme, ce sont les habitants de ces localités de Merenar, Aklamia et Dar Jamal qui ont demandé aux rebelles de se retirer par peur de frappes russes en soutien à l'offensive du régime syrien. À l'issue des combats limités entre rebelles et kurdes, les unités de protection du peuple kurde principale, force kurde en Syrie, se sont ainsi emparées dimanche soir de ces localités quelques jours après avoir pris le contrôle de 3 autres bourgs. Les insurgés se retrouvent désormais pris en tenaille dans la partie nord de la province, à la fois par les Kurdes, le régime, mais aussi par l'organisation État islamique. Les Kurdes combattent indépendamment des rebelles et du régime. La bataille d'Alep pourrait représenter un tournant dans la guerre syrienne, car une perte totale de la deuxième ville du pays, divisée en 2 depuis 2012, affaiblirait fortement les rebelles en difficulté sur d'autres fronts.
Le Canada va mettre fin à ses frappes aériennes contre les positions du groupe État islamique en Irak et en Syrie le 22 février. Le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau a fait l'annonce ce lundi, honorant ainsi une promesse faite durant la campagne électorale. Par contre, le Canada va tripler le nombre de ses forces spéciales à 210 membres dans le nord de l'Irak et allouer une aide totale de 1,6 milliard de dollars canadiens sur 3 ans, a annoncé le gouvernement.
L'armée irakienne déploie des milliers d'hommes sur une base du nord de l'Irak en vue de lancer des opérations pour reconquérir Mossoul, la deuxième ville du pays, aux mains du groupe djihadiste État islamique. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des responsables. Daesh contrôle depuis juin 2014 Mossoul, sa capitale de facto en Irak. Mais le groupe ultra-radical a subi plusieurs revers militaires en 2015 face aux forces de sécurité irakiennes, soutenues par les frappes de la coalition internationale menée par les États-Unis.
Lutte contre le terrorisme, la justice bahreïnie a annoncé l'inculpation de 11 personnes pour formation d'une cellule terroriste et possession d'armes. Certains membres auraient été entraînés par les gardiens de la révolution iraniens et la branche irakienne du Hezbollah. Bahreïn, siège de la 5e flotte américaine et dirigée par une dynastie sunnite, est le théâtre de troubles sporadiques depuis les manifestations de masse en 2011 de la majorité chiite qui réclame des réformes démocratiques.
Réaction au lancement d'une fusée dimanche par la Corée du Nord, le président Barack Obama dit à la chaîne CBS qu'il n'est pas surpris et que bien avant qu'il ait soulevé avec le président chinois Xi Jinping la nécessité d'augmenter la pression sur Pyongyang. À Londres, le gouvernement a convoqué l'ambassadeur de Corée du Nord pour protester contre le lancement de cette fusée, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Pour le journal, vous écoutez LMA, Le Monde aujourd'hui, sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
En RDC, Millicom, qui opère sous la marque Tigo, a cédé ses actions à Orange pour 160 millions de dollars. Le groupe de télécommunications français consolide donc sa présence dans ce pays qui représente aujourd'hui le plus grand marché mobile d'Afrique centrale et de l'Ouest, après le Nigeria, avec plus de 40 millions d'abonnés. En janvier, Orange a racheté deux filiales de la compagnie indienne Airtel au Burkina Faso et en Sierra Leone. Pour restructurer et recentrer ses opérations en 2016, la société mère de Shell au Nigeria, SPDC, a décidé de réduire quelques 10 000 emplois directs dans le monde, sans toutefois préciser le nombre de licenciements envisagés au Nigeria. Mais déjà, Shell a reporté ses investissements en eau profonde à Bonga, dans le sud-ouest du pays. Depuis 1970, le Sénégal a déjà reçu environ 200 milliards de francs CFA. C'est une subvention du Fonds cohésien pour le développement économique arabe en Afrique de l'Ouest. Ce financement constitue une source essentielle dans le développement des projets dans les secteurs agricoles, de l'élevage, de l'infrastructure, hydraulique, de l'industrie, des transports, de la santé, l'éducation et les secteurs de la protection civile. D'autres pays comme le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et la Gambie bénéficient également de ce soutien financier dont le Sénégal reste le premier récipiendaire.
C'était la Minute Éco. Merci Eric.
Passons tout de suite à la page sport avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
L'actualité du jour, c'est le sacre hier des Léopards de la RDC en championnat d'Afrique des Nations.
Oui, les Congolais ont laminé leurs adversaires du jour, les Aigles du Mali 3-0 au stade Amahoro de Kigali. C'était en finale du CHAN 2016. Les buts congolais Chérubin ont été l'œuvre de Machek Elia à la 24e et 62e minute et enfin à la 76e, Bolingui triplait la mise.
Et il faut dire que c'est le deuxième sacre des Léopards après celui de 1999, c'est ça?
Oui, la première édition.
Alors, c'est la liesse en RDC?
Oui, une marée humaine est venue accueillir ce lundi à Kinshasa les Léopards lors de leur retour au pays. Vers 13h local, 12h GMT, une foule innombrable avait envahi le boulevard Patrice Lumumba dans le sud de Kinshasa pour saluer l'équipe qui a donné donc à la RDC son deuxième trophée du CHAN. Le champion d'Afrique des locaux devrait être reçu et décoré demain par le président Joseph Kabila.
Jeux olympiques d'été 2028, possible candidature du Qatar.
Oui, le Qatar pourrait, après ses deux échecs de 2016 et 2020, de nouveau candidater pour les JO d'été 2028. C'est ce qu'a assuré Tani Al-Koukouari, un responsable du comité olympique de l'Émirat.
Et on va parler basket pour terminer. Bagassi, quelques résultats de la NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Eh bien, défaite des Heat de Miami face aux Clippers de Los Angeles, 93-100. Peu de chance également pour New York contre Denver, 96-101. Orlando a battu de justesse Atlanta, 96-94. Boston écrase Sacramento, 128-119.
Et pour ceux qui s'intéressent au football américain, signalez que Denver, les Denver Broncos, sont les champions en titre maintenant. Ils ont battu hier soir les Panthers de la Caroline du Nord, 24-10 en finale de la NFL.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin d'Orsy et Tatiana Mosso, toujours en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, N'Djamena.
Au Tchad, 23 manifestants arrêtés samedi lors d'une marche ont été remis en liberté ce lundi à N'Djamena. Ils entendaient dénoncer la violente répression le 4 février d'un sit-in de jeunes qui protestaient contre le gel sur les trois prochaines années des recrutements à la fonction publique. Timothée Donangmaï a joint N'Djamena, Rémi Gamo, il est secrétaire général du collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad.
Ce matin, le procureur s'est présenté avec quelques membres du gouvernement et en présence du directeur de la police judiciaire. Ils ont demandé qu'on nous libère et je les ai fait comprendre que d'abord, nous ne voulons pas cette libération tant que vous ne nous dites pas de quoi nous sommes arrêtés. Et c'est ainsi qu'il nous a rassuré qu'en venant nous rencontrer en prison, il a fait pour rencontrer les membres du gouvernement. Et les membres du gouvernement ont compris que notre revendication est légitime et qu'ils vont tout mettre en œuvre pour satisfaire nos revendications. Et comme ça, je lui ai fait comprendre que notre collectif Kamojet est déterminé à travers sa revendication qui est celui d'annuler la loi de finances 2016 pour réintégrer les jeunes à la fonction publique. Entre-temps, après notre action, nous avons également demandé la démission du ministre de l'Intérieur, Mamar Bachir, et également du DG de la police pour torture et menace à ma personne. Ces deux personnalités n'arrivent pas à faire la différence entre une marche pacifique et une manifestation. Donc nous avons également envoyé une note au gouvernement. Alors nous avons tout présenté au procureur que le Kamojet intentera des actions dans les courts jours à venir. Une commission sera mise sur pied pour suivre à ce que ces revendications entrent en vigueur.
Vous êtes maintenant libre. Est-ce qu'il y a des conditions pour cette libération?
Il n'y a aucune condition. Le procureur nous a dit qu'il n'y a aucune condition, aucune charge. Parce que pendant l'audition, les OPJ qui nous ont auditionnés nous ont dit qu'après nous, il y a des casses. Donc j'ai dit que le gouvernement, s'il y a des casses, le gouvernement doit prendre ses responsabilités parce que nous avons saisi, alerté le gouvernement à un mois de nos actions. S'il y a des casses, s'il y a des destructions, le gouvernement sera responsable.
Qu'allez-vous faire maintenant que vous êtes libre?
Maintenant, nous avons des actions à mener. Dans deux jours, nous allons convoquer tous les membres du bureau, et y compris les organisations de jeunes qui luttent pour la même cause. Nous allons mettre sur une commission et on va encore accorder un délai au gouvernement. Le gouvernement tient à ce système-là de nous roubler à travers des propositions, des promesses. Donc, nous allons mettre sur une commission qui va essayer de suivre si le gouvernement est sérieux et si le gouvernement n'est pas sérieux. Dans deux, trois semaines, nous allons saisir le procureur et saisir encore d'autres autorités pour reprendre encore notre action.
C'était le secrétaire général du collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad, Rémi Gamo.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena. En Centrafrique, troisième jour de campagne électorale ce lundi pour le second tour de la présidentielle. Les deux candidats, Anissé Georges de Loguélé et Faustin Archange Touadéra, continuent de battre campagne à Bangui comme à l'intérieur du pays. Les jeux d'alliances politiques se multiplient. Monsieur de Loguélé a reçu hier le soutien de Désiré Zanga Kolimba, arrivé troisième à l'issue du scrutin présidentiel du 30 décembre 2015. Les précisions de Freeman Sipila.
À la différence de la campagne électorale pour les législatives, plutôt timide, la campagne pour le second tour de la présidentielle est bien mouvementée. Lancée le 6 février, les deux candidats n'ont pas attendu pour solliciter les suffrages de quelques 2 millions d'électeurs centrafricains. Alors que le candidat Faustin Archange Touadéra se lance à la conquête des électeurs de Bouar, Bozoum et Bossangwa, le même samedi, jour d'ouverture de la campagne électorale, le collectif des candidats à la présidentielle tient un grand meeting en sa faveur au point zéro au centre de Bangui. Jean-Baptiste Koba, candidat du mouvement social de l'évolution de l'Afrique noire, Messin, à la présidentielle du 30 décembre 2015.
Mais je vais vous dire une chose, Faustin Touadéra va nous rendre riches. Il va nous rendre riches d'abord nous-mêmes. Faustin Touadéra va nous rendre riches de sécurité.
De son côté, le candidat Anissé Georges de Loguélé a reçu dimanche un soutien de taille, celui du Rassemblement démocratique centrafricain de Désiré Bilal Zanga Kolimba, sorti troisième à l'issue du scrutin présidentiel du 30 décembre. Désiré Bilal Zanga Kolimba.
Lors du premier tour de ces élections, le RDC et moi avions défendu, conformément aux idéaux de notre parti, l'homme de Centrafrique. Aujourd'hui, le peuple a décidé. Nous en avons pris acte Voilà pourquoi le Rassemblement démocratique centrafricain a décidé de dire oui. Le RDC dit oui au Rassemblement et à Anicet Georges Doléguélé.
Un autre soutien non négligeable à Anicet Georges Doléguélé, l'appui de 5 groupements syndicaux des travailleurs. Dans les Jeux d'Alliance, le mouvement de libération du peuple centrafricain de Martin Ziguélé, 4e suite au premier tour de l'élection présidentielle, et le cadre de concertation élargi des plateformes, partis, associations politiques et personnalités politiques indépendantes ont exprimé leur soutien à Faustin Archange Touadéra. La bataille s'annonce donc très serrée pour le second tour du 14 février. L'autorité nationale des élections appelle les deux partis à l'apaisement. Sa présidente, Marie-Madeleine Coué-Ornaillère, invite les différents candidats au respect du code de bonne conduite.
Les scrutins du 14 février 2016 constituent l'une des solutions de sortie de crise de la République centrafricaine, notre beau pays. À ce titre, nous devons tout mettre en œuvre pour consolider la paix et les valeurs de vivre ensemble. L'Autorité nationale des élections en appelle donc à votre esprit de civisme, de discipline et de non-violence pour que la campagne se déroule dans un climat apaisé.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Cap sur la République démocratique du Congo pour parler de la naissance et de la consolidation des mouvements citoyens à Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, dans l'est du pays. Ces mouvements exigent la tenue des élections présidentielles dans le délai constitutionnel. Ils sont liés au front qui a été formé récemment dans la capitale congolaise, Kinshasa, avec comme objectif barrer la route à un troisième mandat de Joseph Kabila. On écoute le compte-rendu d'Ernest Mouero à Bukavu.
Dans l'ensemble, les doutes sur la tenue des élections présidentielles en 2016 et l'exigence du respect de la Constitution sont présentés comme motif de la création de ces mouvements. Robert Ndjangala, modérateur du Front citoyen nouvellement implanté au Sud Kivu, ne jure que pour l'alternance au pouvoir.
Nous nous disons que le pays va mal et à attendre les discours de différents politiciens de la majorité présidentielle, on peut conclure déjà qu'ils ont tout travaillé pour qu'il y ait dialogue et pour qu'il y ait glissement.
Est-ce que le Front citoyen voit une autre option possible pour qu'il n'y ait pas glissement en 2016?
C'est l'organisation des élections. Notre constitution a prévu tout cela et nous sentons qu'il y a risque qu'il n'y ait pas ces élections. Je pense que la population doit se prendre en charge tel que le veut notre constitution à son article 64.
Pour Maître Adolphe Bandeke, avocat et acteur politique proche du pouvoir en place, ces mouvements qui se disent de la société civile sont des ramifications de l'opposition.
L'opposition maintenant se déguise, se multiplie, s'infiltre au niveau de la société civile pour faire pression au pouvoir. Mais je me dis, avec cet éparpillement, ça n'aura aucun effet. La révision des fichiers électoraux nécessite le temps. Le président de la CENI a dit de 13 à 16 mois. Alors, tant qu'il n'y aura pas de dialogue, il n'y a pas révision des fichiers électoraux, il n'y a pas enrôlement de nouveaux majeurs, il n'y a pas. Et dans les 8 mois qui restent, c'est impossible mathématiquement de commander les kits, d'enrôler les nouveaux majeurs, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que le glissement, c'est déjà acquis. Et là, ce glissement doit être négocié.
Adrien Zawadi, du collège des militants d'un autre mouvement qui vient de naître, le réveil des indignés, il appelle le gouvernement à tirer les conséquences de leur mode de gestion de la Respublica.
Qui n'est pas indigné dans ce pays? Le pouvoir a créé des conditions d'indignation dans la population. Et aujourd'hui, si le peuple se réveille, les gens au pouvoir doivent s'assumer. Notre idéologie se focalise sur ce que nous appelons républicanisme. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse faire respecter les clauses du contrat social, l'alternance au pouvoir, le respect de la Constitution, parce qu'aucun régime autocratique qu'il ait pu être, même l'armée de Napoléon, aucun régime n'a pu vaincre un peuple décidé à sceller son avenir.
Ça tempête déjà dans cette partie du pays et désormais, toute rencontre, échange, réunion parlant des questions de la République doit être précédée par une autorisation, apprend-on des sources municipales. Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM. Au Mali, la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad sont tombés d'accord pour cohabiter pacifiquement à Kidal, fief des anciens rebelles Touareg. Des centaines de membres de la plateforme, une coalition de groupes armés soutenant le gouvernement malien, sont entrés sans violence le 2 février à Kidal. Ces deux groupes se sont battus plusieurs fois dans le passé, malgré l'accord de paix conclu après des mois de négociations à Alger. Idriss Fall, adjoint à Kidal, Adik Mas Armouden, député RMP à Kidal.
La plateforme et la CEMA, assistée du général Gamou, sont parvenus à un accord. Après des longs débats riches en sagesse et en objectivité, les deux parties sont convenues de ce qui suit. Les deux parties restent fermement attachées à l'application de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, ici du groupe 6 d'Alger. Les éléments de la plateforme intégreront les commissions chargées de la gestion de la ville de Kidal. La plateforme allégera son dispositif militaire présent à Kidal. Partout où les deux parties sont conjointement présentes, elles travailleront collégialement pour renforcer davantage le processus de paix enclenché depuis la rencontre historique d'Alger. Toutes les populations des deux parties auront libre circulation tout en respectant les autorités sur place. Les deux parties réaffirment leur indéfectible attachement à l'accord d'Alger qui est aujourd'hui le principal accord gage d'un retour de paix à une paix et à une stabilité durable. Ils réaffirment leur engagement à résoudre tout différent entre elles par la voie du dialogue. Deux parties remercient la communauté internationale pour son accompagnement depuis le début du processus et demande instamment de le continuer, notamment par un appui à la prochaine rencontre plateforme CEMA prévue à Kidal pour couronner la rencontre bénéfice.
Donc on peut dire que la paix est maintenant en marche à Kidal, non?
La paix est maintenant en marche à Kidal. Les populations sont vraiment très contentes de cet arrangement, de cet accord. Et je viens tout de suite d'une rencontre entre les représentants des commissions qui sont chargés de la gestion de la ville, entre les représentants de la plateforme et de la CEMA. Et nous pensons que tout est en route pour nous permettre d'accélérer l'accord de paix signé à Alger.
C'était adjoint à Kidal Adik Mas Armouden, député RMP. Il répondait aux questions d'Idriss Fall.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est déjà la fin de cette édition. On remercie à la mise en onde ce soir Lionel Gaïma, à la console Nachouane Calais. Présentation Tatiana Mosso et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Suivez-nous sur Facebook, partagez vos impressions, vos photos et vos vidéos, posez vos questions et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.